enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos âmes vers toi, Père. Nous élevons nos âmes vers toi. Nous élevons nos âmes, nous élevons nos âmes vers toi. Père, nous nous humilions devant toi. Nous élevons nos âmes. Nous élevons nos âmes. Nous élevons nos âmes vers toi. Nous élevons nos cœurs ce matin. Nous élevons nos cœurs, Père. Nous élevons nos cœurs vers toi. Père, nous humilions devant toi, Père. Nous élevons, élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu. Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es Dieu, tu es ma vie, ma vie, ma vie, tu es ma vie, tu es ma vie, ma je veux te dire que tu es ma gloire, ma gloire, tu es ma gloire. Tu as dit que dans ton palais tout s'écrit gloire, que tout en moi dise gloire. Tu es ma gloire, tu es ma gloire, ma gloire, tu es ma gloire. Ma paix, ma paix, ma paix. Tu es ma paix, tu es ma paix. Ma paix, tu es ma paix. Tu es ma joie, ma joie, ma joie. Tu es ma joie, tu es ma joie. Parce que tu ne lèves pas la voix toi-même et tu lui dis, Seigneur, tu es. Il dit, qu'est-ce que je suis? Son nom est je suis. I am that I am. He is God all by himself. Tu es Dieu, tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es ma source. Et je dis, ah, ma paix. Tu es ma vigueur, ma passion, mon obsession. Tu es ma détermination. Tu es mon assurance. Tu es mon espérance. Mon bouclier, mon berger, mon rocher. Je veux te dire ce matin, comme vierge, Seigneur, je n'ai personne d'autre à t'y aller. Je n'ai pas d'autre confident. Je n'ai pas d'autre source de force et de paix. Pas d'autre source d'assurance et de détermination. Tu es, Et tu es tout ce qu'il me faut. Ma vigueur, ma vitalité, tu es ma gloire. Voilà pourquoi ce matin encore je dis que tout en moi s'écrit gloire. Dans ton palais tout s'écrit gloire. Alors que maintenant, alors que je me tiens dans ta présence, que tout en moi resplendisse ta gloire. Ta gloire c'est la joie, ta gloire c'est la paix. Ta gloire c'est la vitalité, c'est la guérison, c'est la santé divine. C'est l'espérance, c'est la foi, c'est l'audace. Tu es. You are down by yourself. S'il te plaît, ce matin, Père, c'est toi que nous voulons. Seigneur, c'est toi que nous désirons. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise, s'il te plaît. Nous voulons pas être distraits, Seigneur. Réserve-nous de toute forme de distraction. Focalise-nous sur toi. Nous sommes venus des quatre coins de l'île de France, Seigneur, pour t'écouter, pour te rencontrer. Et pour écouter ce que tu veux dire, pas ce qu'une opinion humaine veut dire. Nous te supplions d'inspirer ta parole. Et nous promettons de te rendre la gloire dans le nom de Jésus. Béni sois-tu. Tu es. J'ai cherché dehors, j'ai cherché dans le monde. Maintenant, après avoir cherché et m'être essoufflé, je peux reconnaître que tu es ma vie, que tu es ma paix. Tu ne donnes pas seulement la paix, tu es la paix. Tu ne donnes pas seulement l'amour, tu es mon amour. Et si je peux t'aimer, alors je peux aimer mon prochain, Seigneur. Tu es ma grâce, ma joie, ma foi, ma gloire, ma loi. Tu es Dieu. Tu n'as pas été voté. Il n'y a pas eu d'élection, Seigneur. Et tu ne m'as pas voté. Tu as dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Tu n'as pas demandé l'opinion de quelqu'un, Seigneur, pour m'aimer. Tu n'as pas demandé l'opinion d'un homme pour me qualifier. Tu as dit, je fais ce que je veux, je suis Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Si c'était s'agit de me voter, Seigneur, beaucoup ne m'auraient pas élu. Mais tu m'as choisi. Et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Conduis-nous, Saint-Esprit. Et que Christ, simplement Christ, seul Christ, personne d'autre, mais que Christ soit révélé dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Amen. 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 Pouvez-vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Merci à Expression Impact pour vous asseoir. Je vous bénisse. Alléluia. Si tu peux te tourner vers ton voisin et dis-lui, écoute-moi bien, Dieu ordonne que tu règnes dans cette vie. Mais je suis sérieux. Dieu ordonne que tu règnes. Amen. Ok, nous allons continuer ce que nous avons commencé depuis plusieurs semaines maintenant. Nous sommes toujours sur la même série, Dieu ordonne que tu règnes. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler des cinq clés qui te permettent de découvrir la personne unique que tu es et la fonction à laquelle Dieu t'appelle. Nous avons dit, à partir de Luc chapitre 19 au verset 11, nous avons vu que Dieu, le Seigneur, puisque nous sommes appelés à régner dans l'éternité, dit « Je suis appelé à régner ». Et nous avons dit que régner, ça veut dire influencer positivement ma génération. Ce n'est pas choquant. Il a dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Et la lumière est appelée à rayonner. Donc tu dois rayonner, je dois rayonner. Dis encore à ton voisin « Tu dois rayonner ». Ça n'a rien d'arrogant, tu dois simplement rayonner, tu dois resplendir. Les gens ont besoin de voir la lumière. Lorsque le monde est dans les ténèbres, le monde cherche la lumière. Le monde te cherche. En fait, il ne cherche pas toi, il cherche la lumière de Christ qui est en toi. Alléluia, tu dois rayonner. Et nous avons vu que le Seigneur nous prépare dès maintenant à régner dans l'éternité. Si vous lisez le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que vraiment l'histoire, la marche avec Jésus-Christ, l'histoire de notre foi n'est vraiment pas une histoire de religion, c'est une histoire de règne. Dieu n'est pas là pour créer une religion, Dieu est là pour établir un règne sur la terre, c'est-à-dire une influence, une prépondérance, une influence, l'influence de ses valeurs, de ses standards, de sa pensée, de sa mentalité, l'influence de ses lois sur toute la terre. Afin que la bénédiction de Dieu puisse venir sur la nation, puisse venir. Parce que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen.
Voilà pourquoi Dieu veut régner. Et l'une des raisons, vous savez, quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, il dit, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça ne veut pas dire que tu es mieux que les autres. Ça veut simplement dire qu'il faut que quelqu'un soit au sommet de la montagne, parce que c'est là qu'on regarde, c'est de là qu'on éclaire. Et Dieu veut te placer en haut juste pour que tu éclaires. Que quelqu'un dise Amen. Et alors dis encore à ton voisin, la raison pour laquelle tu lui dis à plusieurs reprises, c'est parce qu'il a tellement été des fois paramétré par la religion. Il y en a qui ont été tellement déformés par la religion qu'ils sont convaincus que nous sommes là pour évacuer la terre vite fait. Non, nous ne sommes pas là pour évacuer, nous sommes là pour apporter le ciel sur la terre. Donc dis encore au voisin, Dieu ordonne que tu règnes dans cette vie. Pas au ciel, maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant sur terre. Non, nous sommes là pour régner. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion. Être en Christ, c'est se préparer à régner dans l'éternité. Ça commence dès maintenant, ici-bas. Et nous avons dit que régner, c'est influencer. Je dois régner, rayonner, influencer ma génération, maintenant. Donner aux gens de ce monde l'envie de venir dans le royaume de Dieu. Amen. Dis encore, ma forme est unique. Et nous avons dit que former, ça veut simplement dire tailler sur mesure. Dieu a préparé un moule sur mesure. La semaine dernière, je vous ai dit que tu peux choisir ta femme, ton mari, ta voiture, ta maison, mais il y a une chose que tu ne peux pas choisir. Un, tu ne peux pas choisir tes parents, parce que ça ne dépend pas de toi. Parce que les parents, c'est Dieu qui choisit. Et j'ai dit que ne te donne pas les parents qui te donnent parce que tes parents sont gentils. Ils te donnent les parents qui te donnent parce que tes parents permettent de constituer le modèle unique que tu es. Tu es un chef-d'œuvre. Et pour te façonner à son image, selon sa ressemblance, pour te façonner, il fallait qu'ils prennent bien de quelqu'un. Et même si ton père ou même si ta mère n'a pas été le modèle ou les modèles qu'ils auraient dû être, qu'importe, le plus important pour Dieu, c'est que tu sois venu sur terre. Il savait qu'il y en a, il savait qu'il y a des colis qu'on endommage, des colis qu'on balance, des postiers. Des fois, tu arrives, tu reçois une livraison, carton, escalté, boum, c'est pas grave. Le plus important, même quand tu étais escalté, c'est que tu viennes. Et après, Dieu te nettoie, il te restaure, et il fait de toi la personne que tu dois être. Ta forme est unique. Et alors, je vous ai donné un acrostiche sur le mot forme. Je vous ai dit que le mot F, c'est faire un inventaire de tes dons spirituels. Fais un inventaire de tes dons spirituels. Le mot O, c'est ouvre ta boîte à aptitude, ou encore à talent, ou encore à capacité. Nous allons voir que c'est la même chose. Le mot R, c'est reviens sur tes expériences passées. Le mot M, c'est mesure les battements de ton cœur. Le mot E, c'est examine ta personnalité. Ces cinq ingrédients, ces cinq critères font de toi un modèle unique. Si tu découvres ça, ça c'est le moule que Dieu a préparé sur toi, sur mesure. Et tu ne peux pas choisir tes parents et tu ne peux pas choisir non plus ta destinée. Tu ne peux pas choisir le but pour lequel tu es venu sur terre. Tu ne peux pas dire je suis là, je fais ce que je veux. Non, parce que tu ne t'es pas créé, tu as été engendré, tu as été créé à son image. C'est lui qui t'a mis sur terre et il a préparé un moule. Et la clé de la réussite dans la vie, la clé de l'épanouissement dans la vie, c'est juste découvrir le moule qu'il a préparé, le costume sur mesure. Et j'ai dit la semaine dernière que lorsqu'on fait un costume sur mesure, on ne peut plus le toucher. C'est toi qui dois maigrir ou qui dois grossir pour rentrer dans le costume. Si tu ne maigris pas, si tu ne changes pas, le costume jamais ne va t'aller. Par contre, lorsque tu rentres dans le costume, tu te déplaces avec grâce et majesté, tu réussis dans tout ce que tu fais. Et surtout, au-delà de toute chose, tu es épanoui. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le moule que Dieu a préparé pour toi, tu vas te rendre compte que ce n'est pas. Je suis convaincu que lorsque tu rentres dans le moule, tu es obligé de réussir. En fait, tout ce que tu fais réussit parce que le manche n'est pas trop court, c'est pas trop long, c'est pas comme mon costume des fois là, mais tout est ok et tu es obligé de réussir. C'est la clé de la réussite. C'est découvrir le modèle sur mesure que Dieu a taillé sur moi, que Dieu a taillé pour moi et sur moi. Et je rentre dedans. Et quand je rentre dedans, je ne peux pas échouer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de désert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de période de difficulté. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que dans tous les cas, il y aura toujours le désert. Tout le monde passe par le désert. Mais ça veut dire que alors que je reste diligent et rigoureux, focalisé dans le domaine où Dieu m'a établi, alors que je commence à opérer, je suis convaincu que tôt ou tard, je vais rayonner dans tous les domaines. Tu ne peux pas vivre dans le manque tant que tu es dans le plan parfait de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que Dieu est obligé d'intervenir et d'agir dans ta vie lorsque tu fais ce pour quoi il t'a appelé. L'ambassadeur des États-Unis, même en Somalie, je cherche un pays où il y a pas de ressortissants. L'ambassadeur des États-Unis en Somalie ne peut pas vivre dans le manque et dans la galère tant que son pays est dans l'abondance. C'est impossible. Un ambassadeur de Christ sur terre, dès lors qu'il rentre dans la mission pour laquelle Dieu l'a établi, il ne peut pas vivre dans la frustration. C'est pas possible. C'est la clé. Voilà pourquoi tu dois entrer dans ta destinée. Tu dois entrer dans ta destinée. Dis à toi-même, tu dois entrer dans ta destinée. Et la forme que tu as te permet de découvrir quelle est ta destinée. Comment est-ce que Dieu m'a façonné? Nous sommes tous différents. Je ne suis pas la photocopie de quelqu'un d'autre. Et je vous ai dit qu'un roi, c'est quelqu'un qui exerce une influence dans un royaume. Et un royaume, c'est un concept, c'est simplement un territoire, pardon. Un royaume, c'est un roi qui exerce une influence sur un territoire déterminé, ou encore un domaine. Donc, il y a un domaine dans lequel Dieu veut se révéler au monde à travers toi. Il y a un domaine dans lequel tu dois être une telle référence, une telle pointure, que lorsqu'on cherche quelqu'un, on ne voit que toi. Il y a un domaine dans lequel, lorsqu'on cherche une référence, on ne voit que toi. Regardez, David, lorsqu'on a cherché, le roi Saül était tourmenté par un mauvais esprit. Lorsqu'on a cherché quelqu'un dans tout le royaume, on n'a trouvé que David. On a dit, il faut quelqu'un qui puisse, qui joue très bien la musique. Les chrétiens croient encore qu'il faut juste être médiocre, faire les choses, c'est pour le Seigneur, c'est pour l'amour du Seigneur. C'est pour mon Dieu à moi. Alors même si je joue comme une casserole, ce n'est pas grave. Non, David était le meilleur dans son domaine. Quelqu'un dit amen. Ouais, David était le meilleur. Et ce que j'aime avec David, voyez-vous, c'est quoi? C'est que non seulement il était le meilleur, il était le meilleur musicien, meilleur chanteur, passionné de Dieu. Parce qu'il y a des moments où il faut être excellent, il faut être compétent. Mais David avait un atout supplémentaire. Parce que moi, je me suis rendu compte, vous savez, il y a des endroits où tu ne peux pas dire au nom de Jésus. Parce que quand tu sors là dans la société, nous sommes dans un état laïque. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Amen. Tu ne peux pas dire, ouais, la Bible dit, tu ne peux pas dire. Mais David a trouvé le moyen de dire, Dieu dit, la Bible dit, au nom de Jésus. Vous savez comment? Juste en jouant un instrument. Vous savez comment? Pendant que David jouait un instrument, non seulement il était le meilleur musicien, mais il avait quelque chose au-dessus des autres. C'est qu'il avait une telle inspiration, il avait une telle onction, il avait une telle communion avec Dieu, que pendant qu'il joue simplement un instrument, puisque... Donc, au palais, je ne peux pas dire au nom de Jésus, démon sort. Tu comprends? Le roi est tourmenté par un mauvais esprit. Je ne peux pas dire au nom de Jésus, esprit mauvais, lâche le roi. Mais alors, qu'est-ce que David dit? Puisque je ne peux pas le dire, je vais simplement jouer. Mais il joue avec une telle onction d'adoration que pendant qu'il joue avec l'onction d'adoration, non seulement le meilleur chant, mais pendant qu'il joue avec une onction d'adoration, la Bible dit que le mauvais esprit qui est sur le roi, ça lui quitte l'esprit. Oh mon Dieu, mon Dieu. Tu vois, tu n'as pas compris. C'est toi, tu dis pas amen. Non. Oh. Moi, quand je dis ça, je dis, mais c'est merveilleux. Il y a des endroits où tu ne vas pas dire, tu n'as pas le droit de dire, la Bible dit, Jésus dit. Mais simplement par ton attitude, simplement en faisant quelque chose. Si tu es musicien, simplement en jouant une chanson, tu entends dans la salle des gens qui commencent à dire, mon Dieu, c'est parti, la maladie est partie. Tu n'as même pas dit au nom de Jésus. Tu as juste posé des notes et puis la présence de Dieu se répand dans la salle. Mais ce n'est pas que pour la musique, c'est vrai dans n'importe quel domaine. Tu fais juste un speech. Je me souviens, une fois, j'étais au Gabon. On était à un séminaire de 4 soirées. C'était pas un truc chrétien, c'était un truc ouvert à tout le monde. Donc il y avait beaucoup de directeurs de cabinet, beaucoup d'anciens ministres. Et on parlait sur le développement du pays, le développement économique de l'Afrique, comment éradiquer la pauvreté. Rien à voir avec la Bible, rien de chrétien. Et sauf que c'était un endroit où je n'avais pas le droit de dire « la Bible dit ». Alors bon, je citais quand même la Bible, mais je disais, dans un livre très connu, il est écrit que la foi sans les œuvres est vaine. Mais tu ne dis pas, la Bible dit, parce que tu vas les gêner, tu vas les choquer. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas les gêner, tu vas les froisser. Mais je vous dis que ça a commencé le lundi, ça finissait le jeudi. Et à ce séminaire, donc sur le développement de l'Afrique, il y avait également le directeur des renseignements généraux de ce pays qui était venu donc pour espionner, pour voir ce qui se passait. Et le mercredi, il va voir l'organisateur du séminaire et puis il lui dit, non mais vous savez, écoutez, jamais je n'ai entendu quelqu'un parler comme ça. Parce que je, par la grâce de Dieu, je parlais, mais il y avait une telle puissance qui sortait, il y avait un côté motivationnel. Et je ne pouvais pas dire que quelqu'un dise amen, vous comprenez, parce que ce n'était pas l'endroit. Donc, je disais simplement aux gens, je disais parce que je voulais challenger la mentalité de pauvreté, de médiocrité. Alors, je disais aux gens, répétez avec moi, rêve grand. Tout le monde disait, au début, ils étaient tous coincés. À un moment donné, quand j'ai commencé à me libérer, j'ai dit, rêve grand. Arrêtez de rêver petit, rêve grand, que quelqu'un dise rêve grand. Voilà, ça veut dire, challenge tes limitations, renverse tes préjugés, rêve grand. Un chat n'accouche pas d'une souris, un roi n'accouche pas d'une mauviette. Rêve grand. Il y en a assez de gens qui ont des petites visions. Seigneur, je vais juste avoir un pain et 2 poissons. Arrête ça, rêve grand. Il y a l'humanité à nourrir. Oh, je commence à m'énerver déjà. Alors, le mercredi soir, le directeur des renseignements généraux, il va voir l'organisateur. Il lui dit, vous savez, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis venu pour surveiller. J'étais malade en venant ici, j'étais mal en point. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais à force d'écouter ce que j'ai écouté, la maladie a quitté mon corps. J'ai dit, oh, alléluia, je n'ai pas dit au nom de Jésus, maladie sort. J'ai juste dit, rêvez grand. J'ai juste parlé de la part du Seigneur, mais avec le langage de la sagesse. Et Dieu s'est manifesté. Quelqu'un dit, amen. c'est ça. Il n'y a pas besoin de venir. Oui, oh, je dois prendre l'autorité. Non. Juste, je me remets en connexion avec Dieu. Je dis, Seigneur, inspire les paroles qui vont sortir de ma bouche. Que le discours du président produise la guérison dans toute la nation. Mon Dieu. Ah, dis à toi, Seigneur, Dieu ordonne que tu règnes. Ah, Jésus. Voilà, c'est ça que tu veux que nous comprenions. Tu arrives à ton boulot, tu arrives à ton... Enfin, pas à ton boulet ou ton boulot, je ne sais pas, mais ça va changer au nom de Jésus. Tu arrives à ton boulot ou à ton futur travail et les gens ne sont pas bien, les gens sont déprimés, les gens sont down. Tu n'as pas toujours besoin de leur dire non, je vais t'imposer les mains parce que ça risque de choquer le PDG, tu comprends? Mais juste par tes paroles, juste par ce que tu émanes, juste par ton attitude, quelqu'un dit mais je me sens beaucoup mieux depuis que tu es là. Tu as juste dit une parole, je sens que ça va beaucoup mieux. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as de... Tu as quelque chose en toi. Tu es chrétien? Non, je suis citoyen de notre royaume. Un extraterrestre venu sur terre pour influencer ma génération et pour t'emmener au ciel avec moi. Alléluia. Et ça, c'est la sagesse. Et ça, les chrétiens pentecôtistes, on n'a pas compris ça. Les chrétiens pentecôtistes, il arrive, quand surtout quand il est pasteur. On lui dit, pasteur, quand vous allez en prison, là-bas en prison, faites ce que vous avez à faire. Donnez un message d'espoir, d'encouragement, mais ne dites pas au nom de Jésus, ne commencez pas à prier pour les malades. Le pasteur, il arrive, il commence à toucher tout le monde. Au nom de Jésus, il commence à chasser les démons. Les gens commencent à coucher dans la prison. Les policiers viennent, ils le foutent dehors. Et puis après, il dit, je suis attaqué, c'est le diable. Non, j'ai dit, ça, c'est pas le diable. Ça, c'est ton ignorance, c'est ton manque de sagesse. Que quelqu'un dise que Dieu nous aide. Alléluia. Ta forme est unique. Amen. Ma forme est unique. Alors, je vais commencer à développer aujourd'hui le premier F. Le premier F, c'est faire un inventaire de tes dons spirituels. Qu'est-ce que c'est qu'un don spirituel? Un don spirituel, c'est une capacité surnaturelle que tu reçois. C'est comme un cadeau. Parce que dans la Bible, vous allez voir que le mot don et le mot présent sont traduits de manière interchangeable. On les retrouve l'un ou l'autre. Mais à l'origine, c'est simplement un cadeau. Une capacité surnaturelle que tu reçois lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est un cadeau. C'est un don. C'est une aptitude surnaturelle. Que quelqu'un dit surnaturel. Que Dieu donne à ceux qui reviennent à lui. Vous allez voir tout à l'heure, peut-être si on a le temps de développer ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mais vous allez voir, contrairement à une aptitude ou encore à un talent, un talent n'est pas un don, un talent, c'est une aptitude que Dieu met en toi, pas lorsque tu nais de nouveau, mais lorsque tu nais simplement, lorsque tu es conçu même dans le ventre de ta maman, c'est quelque chose qu'il met en toi avec lequel tu nais. Dieu met des cadeaux en tous les êtres humains. Dieu ne donne pas des cadeaux seulement à ceux qui sont nés de nouveau. Amen. La Bible dit qu'il répond, s'appuie sur les bons et sur les méchants. Mais le talent, c'est ce que Dieu a mis en moi avant que je ne naisse. Le don spirituel, c'est ce que Dieu m'a communiqué lorsque je suis revenu à lui. Dis, j'ai des dons spirituels. Alors, il y a 15 choses que je vais partager avec vous à propos des dons spirituels. Premièrement, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai beaucoup de choses à dire, donc j'espère aller un peu vite quand même. 1 Corinthiens chapitre 12. Ce n'est pas le seul passage biblique qui parle des dons spirituels, mais il fait partie des passages qui parlent des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, on lit à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il parle par l'esprit, ne dit Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4, voilà qui nous intéresse. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. La Bible nous dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut simplement dire, premier point, que le don spirituel est donné pour édifier, pour l'utilité, pour édifier le corps de Christ, pour édifier l'Église. Le don ne t'est pas donné pour toi seul, il n'est pas donné pour que tu cires tes chaussures, tu regardes tes chaussures et que tu deviennes admiratif de toi-même. Le don est donné pour édifier, pour construire. l'Église. Amen. Deuxièmement, tout croyant, tout chrétien, toute personne née de nouveau, pas toute personne qui va à l'Église, mais toute personne née de nouveau, possède au moins un don, au moins un. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 7, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Chacun tient de Dieu un don particulier. Dis avec moi, « J'ai au moins un don. » Tu en as au moins un, t'inquiète pas, tout à l'heure tu vas comprendre comment on découvre ça, je te ferai une liste qui n'est pas exhaustive, mais tu en as au moins un. La plupart des chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils ont au moins un don, parce que les charismatiques ont limité les dons du Saint-Esprit à 9 dons. C'est une erreur, vous allez voir tout à l'heure que c'est une erreur. Point numéro 3, un don, le don spirituel peut être reçu par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains, on peut transmettre un don spirituel. 1 Timothée 4, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Point numéro 4, « Personne ne possède tous les dons. » Personne ne possède tous les dons. Tu ne peux pas tout avoir. Dieu est trop sage. Amen. Dieu est la source. Tu ne peux pas tout avoir. Personne ne possède tous les dons. 1 Corinthiens 12, verset 29 à 30. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils des miracles, tous sont-ils des noms de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Non, pas tous. Chacun a quelque chose de bien déterminé. Point numéro 5, les dons sont attribués sur la base de la grâce de Dieu et pas sur la base du mérite ou de la performance. Dieu accorde les dons comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 1. Il y a des points sur lesquels je vais plus insister, mais cela je passe vite. 1 Corinthiens 12, verset 11, pardon. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Ça veut dire que Dieu t'équipe en fonction de la chose qu'il t'appelle à faire. Il te donne un don spirituel en fonction du domaine où il sait que tu en as besoin. Ça veut dire que lorsque tu chantes comme un pied et que tout le monde te supplie d'arrêter de chanter, n'insiste pas en disant « je veux absolument chanter ». Si ce n'est pas ton domaine, si ce n'est pas la chose dans laquelle Dieu veut se révéler dans ta vie, il ne te donnera pas ce don. Est-ce que tu peux dire amen à ça?
Amen.
Parce que la plupart du temps, on regarde ce qui a l'air spectaculaire et on veut ce qui a l'air spectaculaire. Parce qu'on se dit, je veux être comme lui. Parce que l'autre est sous les projecteurs, alors on dit, moi je veux ce don, parce que ce don met sous les projecteurs. Alors il y a des gens qui insistent, qui persistent, qui consistent, jusqu'à s'étrangler. Et ils sont les seuls convaincus qu'ils ont un don de Dieu dans ce domaine-là. Personne ne le voit. Or, la Bible dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Il y a des choses qui doivent être visibles. Il y a des gens qui viennent te voir. Pasteur, Dieu m'appelle à être prédicateur. Je dis, ok, gloire à Dieu. Commence d'abord avec 5 personnes, parce que si tu peux toucher 5 personnes, si quand tu parles à 10 personnes, on va dire 10. Quand tu parles à 10, là, les gens sont touchés. Ça veut dire quelque part, parce que Dieu ne t'emmène jamais brusquement. Dieu te fait toujours passer par étapes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu t'emmène toujours lentement et sûrement. Il y a des gens devant 10, tout le monde est indifférent, mais ils disent non. C'est parce qu'il n'y en a que 10, il m'en faut 1000. Ah, Jésus, compassion de ton peuple. Quelqu'un dit amen. Les dons sont attribués comme il veut. Et il te donne un don en fonction du domaine où il t'appelle à opérer. Vous allez vous rendre compte que le piano est un chef-d'œuvre pour celui qui l'a inventé. Beaucoup de gens utilisent le piano. Beaucoup de gens utilisent la guitare. C'est un chef-d'œuvre. On peut faire un concert avec justement uniquement avec une guitare. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut faire un concert uniquement avec un piano. On peut faire un concert uniquement avec un saxo. Il y a des gens, et puis vous savez ce qui est extraordinaire? Chacun de ces instruments est unique. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre parce que chacun produit un son différent de l'autre. Il y en a même qui font des concerts avec un violon, j'ai jamais compris. Avec un violon. Il y en a qui remplissent des stades juste avec un violon. Ils remplissent tout un théâtre avec un violon. Et quand tu arrives, là, tu as envie de dormir. Mais pour il y en a, ils sont là. Même l'opéra, mon Dieu, vraiment l'opéra. Non, mais chacun sa sensibilité. Je suis émerveillé lorsque je vois des opéras remplis de 3000 personnes. Et tu entends quelqu'un qui fait... C'est un son. Quelqu'un dit c'est un son. Non, dis encore, c'est un son. C'est-à-dire, c'est un son qui toi te laisse indifférent, mais qui fait acclamer quelqu'un d'autre. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que ta vie va émettre un son pour lequel quelqu'un acclamera. Dis amen. Oh, Jésus de Nazareth. Non, dis amen, acclame le Seigneur. Ma vie produira un son. Si je ne comprends pas ça, je vais passer mon temps à être complexé et à vouloir ce que Dieu a donné aux autres. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Parce que tout le monde est impressionné par ce qui est spectaculaire. Tout le monde est impressionné par ce qui met les gens sous les projecteurs. Mais j'ai compris une chose. Lorsque tu as quelque chose, dis j'ai quelque chose de Dieu. Je parle de quelque chose que lorsque tu t'es converti, Dieu t'a donné. Avant, tu as déjà reçu des choses, mais il y a des dons particuliers que Dieu t'a communiqués le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as quelque chose. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu as. Mais dis encore, j'ai quelque chose. Le sixième point, c'est que Dieu ne revient pas sur les dons et sur l'appel qu'il nous adresse. Romains chapitre 11, verset 29 dit, les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. Une autre version dit, car Dieu ne se reprend pas de ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ce qu'il a appelé. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le costume sur mesure que Dieu a préparé pour toi est déjà là. Tu peux le prendre à 20 ans, à 15 ans ou à 70 ans. Tant que tu ne le prendras pas, tu ne seras pas accompli dans la vie. Tu ne seras pas épanoui, tu seras frustré, opprimé, comprimé, déprimé et tu vas passer ton temps à tirer sur tout le monde, à tirer sur tous les gens qui vont quelque part. Parce que simplement, tu n'auras pas pris ton costume. Et tant que tu ne prends pas le costume sur mesure que Dieu a préparé pour toi, tu n'iras nulle part. Quelle que soit la manière dont les gens t'applaudissent dans le monde. Il y a des gens dehors, vous savez, c'est ce qu'on appelle des échecs réussis. Ils ont échoué, mais le monde les acclame. Sauf que lorsque les rideaux sont tirés, ils se calment. Ils se shootent à la drogue, au cannabis, ils sont alcooliques, ils ont toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Ils ne sont pas épanouis. La prospérité, le succès, l'épanouissement commencent à l'intérieur. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça commence à l'intérieur de toi. Ça commence à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin que les gens acclament. Tant que j'acclame moi-même que je suis seul et que je bénis Dieu dans la communion avec lui. Même si je n'ai pas à manger, je te dis, laisse-moi te dire une chose. Même si je n'ai pas à manger, c'est simplement un état passager. Ça passera. Dis, ça passera. La Bible dit en anglais, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Ça veut dire la nuit. Ça veut dire, en français, c'est pas traduisible. Enfin, bref, on va dire, il peut y avoir une saison. Il y a des saisons de nuit dans la vie, c'est vrai. Mais il y a une saison qui s'appelle le jour, le matin qui arrive dans ma vie. Je ne serai jamais dans la honte et dans la confusion. Et ne te réjouis jamais, ne te dis jamais, c'en est fini de lui quand tu me vois passer par des saisons de galère. Parce qu'il a dit, il faut aussi que je passe par le feu. Il y a des choses, je vous l'ai dit, que la vallée de l'ombre de la mort produit, que les autres choses ne produisent pas. Il dit oui, l'Éternel est mon berger, mais côté de mes pas de durage, je me dirige vers les eaux paisibles, c'est vrai. Dieu ne me conduit pas dans les eaux paisibles, malheureusement. Dieu me fait passer aussi par la vallée de l'ombre de la mort. Tout ça c'est utile et tout ça c'est bon. Quelqu'un dit amen, je continue. Amen. Voilà. Le costume sur mesure est là. Il ne se reprend pas, il ne changera pas. Tu vas lutter, galérer, te battre, tout ça. Dieu ne changera pas. Tu ne peux pas dire, Seigneur, bon, pour moi, tu peux quand même faire une exception. Dieu ne dit rien. Il ne te répond même pas. Il dit le costume est là. Si tu l'enfiles, tu réussis là. Tu l'enfiles pas, tu vas échouer. Même si tu l'enfiles à 70 ans, il te restera encore 70 ans pour réussir, mais tu dois l'enfiler. Dis amen. Amen. Point numéro 7, le don ne doit pas être négligé, mais au contraire, il doit être cultivé. Tu dois faire des progrès qui doivent être évidents pour tous. 1 Timothée 4, versets 13 à 15. Je passe là-dessus. Je passe là-dessus également. Ok. Le don, je saute un peu, je saute quelques points. Le don, tu dois le mettre au service des frères. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons ou le don qu'il a reçu. Dis à ton voisin, mets-le au service des autres. Ah, j'ai dit, dis à ton voisin, mets-le au service des autres. Bon, dis-le, non, d'accord, regarde-le, dis-lui, mets ça à mon service. Donne-le. Voilà, quand tu dis, c'est assez, dis-lui, pour moi, donne-moi ça, j'en ai besoin. Tu n'as pas le droit de le garder pour toi. Quelqu'un dit amen, on continue. Amen. Autre point, il ne faut pas confondre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Il ne faut pas confondre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit révèle ma maturité. Le don de l'esprit indique simplement le ministère dans lequel Dieu m'appelle à le servir. Amen. Autre point, comprendre que l'exercice d'un don spirituel qui n'est pas exercé avec amour ne produit absolument rien et ne sert absolument à rien. S'il n'y a pas d'amour, Paul dit, c'est vain. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Autre point, et ça c'est important pour les charismatiques, ça. Il n'y a pas que 9 types de dons spirituels. Il n'y a pas que 9 types de dons. J'ai dit un don, c'est une aptitude, une capacité surnaturelle que tu as reçue lorsque tu t'es converti au Seigneur. Amen. Mais il n'y en a pas que neuf. Il n'y en a pas que neuf. Alors, à quoi vous venez? Regardez, lisez avec moi Éphésiens chapitre 4, verset 7. Je vais vous le lire avec la version français courant. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La version français courant dit ceci, cependant chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé dans sa grâce. As-tu remarqué qu'il y a des aptitudes que tu as acquises depuis que tu l'as rencontré? Il y a des choses que tu sens, il y a des domaines dans lesquels tu sens plus une grâce que tu n'avais pas auparavant. Qui a remarqué ça? Il y a des gens par exemple, non parce que des fois on croit qu'il faut juste les neuf dons spirituels, les trois dons d'inspiration, les trois dons de révélation, les trois dons de puissance. C'est faux. Parce qu'en fait, comment tu reconnais un don que tu as reçu à la conversion? C'est lorsque tu vois que tu as une grâce dans un domaine que tu n'avais pas du tout avant. Tu as une grâce dans un domaine, que quelqu'un dise grâce. Effectivement, un don, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Il y a des aptitudes que tu as acquises. Je connais par exemple des gens qui hier ne supportaient pas de sauter un repas, mais qui aujourd'hui sont capables de passer trois jours facilement sans manger. C'est une grâce. Quelqu'un dit c'est une grâce. C'est une grâce particulière. Il y a des gens qui ne pouvaient pas prier plus de deux heures. Et aujourd'hui, bizarrement, sans faire d'effort, juste en grandissant, ils ont la capacité de prier pendant deux heures pour les sujets du monde entier. Ça, c'est un don. Quelqu'un dit c'est un don. C'est le don de l'intercession. C'est le don. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Tu as une grâce particulière que tu as reçue à la conversion. Il y a plusieurs types. Il y en a, moi j'en ai répertorié au minimum 23. Il y a des dons qui permettent de communiquer, d'enseigner ou de proclamer la parole de Dieu. Il y a des dons qui permettent de proclamer la parole de Dieu. Il y a des dons qui permettent d'édifier, de construire le peuple de Dieu. Ce qui permet de communiquer la parole de Dieu, vous avez la prédication, l'évangélisation, les missions, l'apostolat. Ça c'est pour l'école biblique qu'on va développer, c'est pas ici. Les dons qui permettent d'édifier, l'enseignement, l'encouragement, l'exhortation, la parole de sagesse. Est-ce que vous vous rendez compte que moi par exemple, je n'aurais jamais cru être capable d'écrire un livre? C'était pas chez moi, c'était pas en moi. Comment est-ce que, depuis que tu as accepté le Seigneur, tu as une passion pour chanter, tu apprends, j'ai appris à jouer au clavier, ça c'est lui mon maître, hein, c'est lui mon professeur, j'ai appris à jouer au clavier en 3 mois. Ce qu'il faisait depuis l'âge de 6 ans, je l'ai rattrapé en 3 mois. Et il était dégoûté parce qu'il ne pouvait plus prendre mon argent puisque j'étais tellement compétent qu'il n'avait plus rien à m'apprendre. Non mais que quelqu'un dit c'est un don. Je veux dire, c'est une grâce, quelque chose que tu fais sans trop de difficultés. Écrire, alors que tu n'as jamais écrit, c'est une grâce. Il y en a qui sont découverts un talent, une passion pour la musique, pour le chant. Si tu n'avais pas avant, alors c'est une grâce, donc c'est un don. Il ne faut pas limiter ça. C'est beaucoup plus large que tu ne le crois. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai au moins un don. Il y a des dons qui célèbrent la présence de Dieu. J'ai dit, il y en a qui permettent de proclamer la parole de Dieu, il y en a qui permettent d'édifier le peuple de Dieu, il y en a qui permettent de célébrer la présence de Dieu par la musique, par le chant, par les instruments. Il y a des dons relatifs à la prière, l'intercession, c'est un don, etc. Autre point, ne jamais comparer les dons ni considérer qu'un don est supérieur à un autre. Jamais. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Lorsque tu opères dans un ministère avec ce que Dieu t'a donné, ne t'attends pas à voir toutes les personnes qui opèrent dans la même dimension avoir les mêmes résultats que toi. Ne juge pas les gens parce qu'ils font moins bien que toi dans ton domaine. Tu n'es pas bon partout. Tu es bon, tu es censé être bon au moins dans un domaine. Amen. Au moins dans un domaine. Mais ne juge pas les gens parce qu'ils ne sont pas aussi performants que toi. La plupart des intercesseurs ne comprennent pas comment est-ce que les gens ne peuvent pas prier pendant plus de 2 heures. La plupart des gens qui jeûnent ne comprennent pas pourquoi tout le monde ne peut pas jeûner 21 jours sans faire d'effort. La plupart des chanteurs ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y en a qui chantent comme des casseroles. La plupart des enseignants ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas capable de donner un message bien structuré. Ils sont choqués quand quelqu'un donne un message en désordre. Je reconnais que ça, nous tous là, nous faisons ces erreurs. Ça, je reconnais que tout le monde est dedans. La plupart des évangélistes ne comprennent pas pourquoi tout le monde n'arrive pas à ressusciter les morts et à faire lever des paralytiques. Et donc, ils écrivent des livres et ils disent, tout le monde doit être capable de ressusciter un mort. Parce que c'est le domaine dans lequel Dieu les fait opérer eux. Donc, quand il arrive sans faire d'effort, c'est son onction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sur lui naturellement. Dieu ne lui a donné à la conversion. Dès qu'il arrive, il voit un paralytique, il lève-toi et marche, il va se lever. Mais l'erreur qu'on commet, quoi, tu n'arrives pas à le faire marcher? La plupart, il y a des gens, et je ne t'ai pas dit, la libéralité c'est un don. Non, je n'ai pas dit, le fait de faire des offrandes c'est un don. Ça c'est un devoir pour tout le monde. Mais il y en a qui ont plus le cœur à la libéralité que d'autres. Je ne vous ai pas dit aussi, la miséricorde c'est un don. Il y en a, ils ont le cœur rempli de miséricorde. Ce n'est pas que les autres n'ont pas de miséricorde, mais c'est que eux, depuis qu'ils sont convertis, leur cœur, il y a un fardeau pesant qui pèse en eux. Et le challenge qu'il y a, les gens qui ont le don de la miséricorde ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas à l'hôpital visiter les autres. Donc, et chacun, quand il a un don, chacun est convaincu que son don, là, c'est le centre du monde. Tous les évangélistes sont convaincus que l'Église, on doit évangéliser. Il doit y avoir... Les gens qui ont le don de la libéralité ne comprennent pas pourquoi on n'est pas capable de faire une offrande, chacun de nous faire une offrande de 10 000 euros. Voilà, je dis Amen. Alléluia. Nous avons tendance à croire que le don que nous exprimons, lorsque nous apprenons à bien le maximiser, nous avons tendance à croire que c'est le meilleur des dons. Et donc, nous avons tendance à croire qu'il est supérieur aux autres. Jusqu'à ce qu'on se... Vous savez, il y a des gens qui sont convaincus, par exemple, que... Parce que c'était une époque. Dieu a révolutionné le monde par les évangélistes. Dites Amen. Dieu a révolutionné le monde par les évangélistes. Et à un moment donné, tout le monde, même quand tu t'es appelé à faire autre chose, quand tu t'es appelé à être un enseignant, puisque dès qu'il y a un évangéliste, tout le monde court. Quand il y a un enseignant, les gens ne viennent pas parce qu'ils veulent le spectacle. Ah donc, il y a des gens qui ont commencé à changer de carapace, ils ont commencé à se dire, bon écoute, mon truc là c'est pas populaire. Dès qu'il y a un paralytique qui marche, les foules sont nombreuses. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens, la clé en fait, c'est pas de courir, imiter l'autre. La clé, c'est de devenir excellent dans le domaine où Dieu m'a donné un don. Amen. Oh non, dites encore Amen là. Amen. Quel que soit ce que j'ai reçu, si j'apprends seulement à l'optimiser, à le maximiser, à me mettre devant Dieu de manière que Dieu fasse passer ce don sur une échelle de 0 à 10, Dieu le fasse passer de 3 à 9 ou à 8, là, ça devient excellent. C'est quand je me suis converti, j'avais l'impression que bon sang, mais si les handicapés ne marchent pas là, il n'y a rien. Jusqu'à ce que je découvre des ministères comme ceux de T.D. Jakes, où il n'y a pas un handicapé qui marche. Mais quand il parle, les stades sont pleins. Jusqu'au dehors, c'est plein. Mais il ne fait que parler. Ça m'a consolé. Il ne fait que prêcher. Et le résultat, c'est que les gens pleurent. Les cœurs sont déchirés. Les cœurs sont transformés. Je me suis rendu compte que Dieu est sage. Et que Dieu fait toutes choses pour un but. Et que Dieu n'a pas tout donné à une seule personne. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi maintenant je bénis Dieu. Alors tu me dis, lui quand il prêche, tout de suite, parce que moi je crois que les handicapés vont se lever. Mais il y en a ceux qui se lèvent instantanément. Puis il y en a ceux qui ne se lèvent pas instantanément. Mais chacun son domaine. Chacun son don. Chacun son onction. Dis chacun son don. Mais bizarrement, maintenant je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où je vais. Je suis allé en Côte d'Ivoire l'année dernière. J'arrive, il y avait plus de 1500 personnes juste pour un culte de dimanche. Alors que normalement ils étaient 600. Je dis, oh bon, ils sont venus pour quoi? Ils sont venus pour... C'est sérieux cette affaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, travaille avec ce que Dieu t'a donné. Amen. La clé, c'est juste hein, ranimer le don. Parce qu'un don doit être ranimé. Ranimer, ça veut dire mettre de la vie à l'intérieur. Anima, ranima, anima. Ça veut dire mettre de la vie. La vie de Dieu. Si la vie de Dieu remplit ce don, mon frère, ma soeur, tu es obligé d'être distingué. Il y a plusieurs types de dons. À partir d'aujourd'hui, ne te limite pas juste à la parole de connaissance, la parole de prophétie, la parole de sagesse, le don des miracles, le don des guérisons. Ne te limite pas juste au don d'interprétation des langues. Non, il y a beaucoup plus que ça. Si tu as le cœur, tu as la grâce naturellement pour être très enclin vers à la compassion, c'est une grâce que Dieu t'a donnée, que quelqu'un d'autre n'a pas. Et la Bible dit tout ça, Dieu le met ensemble pour l'édification du corps. Voilà pourquoi lorsque tu restes dans ton coin, tu ne mets pas au service des autres, tu pèches. Tu pèches parce que tu prives les autres de ce que Dieu a déposé en toi. Et ce que Dieu a déposé en toi ne te l'a pas donné pour toi. Et ne confondez jamais le don et la fonction. Il y a des gens qui vont créer, par exemple, une église à partir d'un don de guérison. Donc, comme je prie pour quelques personnes et ils sont guéris, à partir d'aujourd'hui, je vais m'auto-proclamer pasteur international des nations prophétiques. Non, ça n'a rien à voir du tout. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, j'ai au moins un don. Ça, c'est le F. Fais l'inventaire de tes dons spirituels. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Il y a plusieurs manières de le découvrir. Une des manières de le découvrir, c'est test. Fais un test. Moi, je sais que je n'ai pas le don pour gérer les enfants, parce que j'ai déjà avec mes propres enfants, deux dans la journée, tu comprends, au bout de quelques heures, je commence à piquer une crise. Donc, je sais que ce n'est pas mon don. Fais des tests. Dis à ton voisin, fais un test. Tu peux aussi sonder les autres, leur demander ce qu'ils voient en toi. Qu'est-ce qu'ils voient? Parce que si tout le monde, si personne ne voit ce que toi tu vois, et que tu persistes à dire, c'est ça. La Bible dit, c'est sur la déclaration de deux ou trois témoins qu'on arrive à établir une vérité. Je sais que tu as la foi et que tu es persévérant, mais quand même, remets-toi un peu en question, humilie-toi un peu devant Dieu quand même. Si personne ne voit que tu es le seul à voir, gloire à Dieu, tu as la foi, mais quand même, fais attention des fois. Alléluia. Et une des manières de découvrir le don qu'on a, c'est juste de commencer à servir. Juste de commencer. Tu vas voir qu'il y a des domaines dans lesquels tu as des grâces qui vont se manifester. Lorsque tu vas. Faut pas attendre de découvrir. Faut commencer à servir parce qu'en servant, tu vas procéder aussi par élimination. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dis à ton voisin, sers tout de suite. Tu dois apprendre à servir. Quand tu commences à servir, il y a des choses, tu vas te rendre compte que c'est pas naturel. Mais chacun de nous a reçu de Dieu une grâce particulière. N'essaie jamais de me ressembler. Je n'essaie pas de te ressembler non plus. Je suis moi, tu es toi. Et ta forme est unique. Ma forme est unique. Amen. Quelqu'un dit amen. Le O, c'est ouvre ta boîte à talent. Ouvre ta boîte à capacité. Nous connaissons tous la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25. Ah, oh, ce sujet, je l'aime beaucoup. Le talent veut dire plusieurs choses. Le talent à l'époque, c'était une monnaie d'or ou d'argent. Le talent également était une unité de poids qui valait environ 27 kilos. Et lorsque Jésus nous donne un talent, lorsque Jésus te donne un talent, en réalité, il ne te donne pas l'argent, il te donne quelque chose qui a du poids. Il te donne quelque chose qui a du poids. Et ce qui a du poids dans ta vie, c'est une aptitude, c'est une capacité, une habileté naturelle ou acquise pour réussir en société ou dans une activité déterminée. Et j'ai dit que le talent, ou encore l'aptitude, ou encore la capacité, c'est quelque chose qui est en toi depuis que tu es né. Quelque chose qui est en toi depuis que tu es né. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Paul dit, cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité, notre aptitude, notre talent vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors, par rapport au talent, par rapport aux aptitudes, il y a d'abord 5 mythes qu'il faut corriger. Le premier mythe qu'il faut corriger, c'est que, donc 5 mythes ou 5 idées fausses, c'est qu'il y en a qui pensent que les gens ne naissent pas avec des talents et que tous les talents doivent être appris par l'expérience. C'est faux. La plupart d'entre nous, nous sommes nés avec des talents naturels. Qui aujourd'hui, franchement, est conscient de ce qu'il a des talents ou des aptitudes naturelles? Sans faire d'effort, c'est une aptitude qu'il a. Levez la main, sincèrement. Donc ça veut dire que les autres, vous ne savez pas regarder à l'intérieur de vous-même. Parce que vous avez forcément quelque chose. Et si, je ne pense pas que ce sera pour aujourd'hui, mais quand je prendrai la semaine prochaine le temps de développer des exemples, des listes d'aptitudes, vous allez vous rendre compte que vous êtes forcément dedans. Il y a forcément quelque chose que tu as. Deuxième mythe qu'il faut corriger, c'est que les compétences ou les aptitudes ou les talents ou les capacités que nous devons apprendre sont acquises à l'école. C'est faux aussi. L'école souvent permet de confirmer ou de révéler quelque chose que tu as déjà. Amen. Le troisième point, c'est que les gens pensent que si on a des aptitudes, donc on en est forcément conscient. C'est pas vrai. On n'est pas toujours conscient de ses aptitudes. On n'est pas toujours conscient de ses aptitudes. Des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à les découvrir ou à en prendre simplement conscience. Alléluia. Mais vous allez, alors, le dernier point, c'est que la plupart des personnes pensent n'avoir que quelques aptitudes. En réalité, tu en as beaucoup plus que tu ne le crois. Mais en même temps, une seule suffit à faire la différence. Tu n'as pas besoin de beaucoup, une seule suffit à faire la différence. Il y a 4 fleuves qui arrosent le jardin d'Éden. Qui arrosaient le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2. Quelqu'un dit 4. Il y a 4 fleuves qui arrosent le jardin d'Éden. Et le Seigneur m'a expliqué, m'a révélé que si tu veux que ta vie soit comme un jardin qui porte du fruit dans tous les domaines, tu dois au moins avoir 4 fleuves qui arrosent ta vie. Notamment au niveau financier, tu dois avoir 4 fleuves qui arrosent ta vie. quatre fleuves. La plupart des gens fonctionnent avec un seul fleuve. Et lorsque le fleuve tarit, ils sont dans la galère. C'est la disette et la sécheresse. Et le fleuve sur lequel la plupart des gens, le seul fleuve sur lequel la plupart des gens se basent, c'est leur salaire. Et tu dois en avoir trois autres. Alléluia. Comment fait-on pour découvrir ces fleuves? Comment fait-on pour les trouver? C'est simple. Derrière chaque fleuve, il y a un don. Il y a une aptitude que tu n'as pas exploitée et qui fait que tu vives dans le manque. Depuis que j'ai compris ça, ben franchement, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être pauvre. Par ta grâce, je ne peux pas. Non. Il y a quatre fleuves que tu dois trouver. Quatre. Quatre sources différentes qui doivent arroser ta vie. Et quand, même quand tu es brillant, tant que tu ne dépends que d'une seule source, tu verras que ça ne suffira pas. Pour financer la vision que Dieu t'a donnée, pour aller dans ta destinée, il te faudra plus qu'un petit salaire. Est-ce que vous me suivez? Et tu galères parce qu'il y a un seul fleuve qui arrose ta vie. Et dès que le fleuve, la plupart des gens ne sont pas capables de vivre 4, 3 mois sans salaire. 3 mois, ah! 3 mois sans salaire, sans la CEDIC, c'est fini. Il prend les piquets de grève, il s'installe, il dit, oh, nous grèvons, pourquoi? On m'a perdu, mon emploi est perdu. Mais pourquoi les gens grèvent? C'est parce qu'ils dépendent juste d'un seul fleuve. Et si ça t'arrive, il n'y a plus de CEDIC, c'est fini, il est dans la galère. Dis, ça doit changer au nom de Jésus. Pour trouver les fleuves qui doivent arroser ta vie, trouve les talents. Au moins un talent, même pas besoin de plusieurs. Venez avec moi, Proverbe chapitre 17, je vais bientôt arrêter. Proverbe 17, verset 9. Et Proverbe 18, verset 16. Le jour où j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Proverbe 17, verset 9, allons-y. Proverbe 17, verset 9. Alors la version Louis II a traduit par le mot présent. Mais je vous ai dit qu'un présent, c'est la même chose qu'un don. Sauf que là, quand on parle de talent, on parle d'aptitude. C'est aussi un don, mais qui n'est pas un don que j'ai reçu à la conversion, mais que j'ai reçu à ma naissance. Proverbe 17, verset 9, voilà ce qui est écrit. Écoutez bien, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté... Comment? Non, je suis dans Proverbe 17, 9. Ah, bah ça dépend des versions alors. Proverbe 17, 8, c'est ça? Ok, Proverbe 17, 8. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. Mettez les présents par les dons. Les dons, ou encore les talents, ou encore les aptitudes, ou encore les capacités, sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Ouh, Jésus. Allez, 18, verset 16, 18, 18. Alors, 18, allons-y. Je jubile déjà. Est-ce que vous y êtes 18-16? Bon, si tu n'es pas 18-16 vraiment, c'est juste le chapitre après. On y va. Les dons. Les dons d'un homme. Je remplace présent par don. Amen. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des... Oh, Jésus, mais regardez, non. Où sommes-nous là? Oh, Jésus de Nazareth. Je vous lis la version du semeur. Hein? Il dit les cadeaux, mais on va remplacer encore par don ou talent. Les dons, les talents, les capacités ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Mais il a tout dit là. Il dit les dons élargissent la voie et donnent accès auprès des grands. Regardez tous les gens qui sont, même je parle des dons, des talents naturels. Tous les gens que vous voyez dans la société qui ont réussi à se démarquer dans un certain domaine. Ils ont juste utilisé au moins un don. Il y en a qui ont l'impression qu'ils n'ont rien. Il y a des publicités que tu vois, rien. Il y a des femmes même qui font des publicités. Hein? C'est-à-dire que, franchement, on ne prend que ces hommes. Uniquement, bon, c'est pas une aptitude, mais c'est quelque chose que Dieu a donné aussi. Juste ces hommes, pour faire la parce que les autres coûtent trop cher, les normies comme même coûtent trop cher. Juste pour prendre, quand ça veut faire la pub des colons, on prend juste sa jambe. Il y en a, c'est la voix. Il y en a, c'est leur voix. C'est-à-dire qu'il a une voix extraordinaire. Quand tu parles, quand il parle, il fait, bon, excusez-moi, énergie, skyrock, amour. Il prend pas ta voix là, ta voix d'oiseau là. Non, il prend une voix qu'il porte. Mais rien que ça. Mais en fait, quand tu vois ce genre de personne là, en fait, il a un boulot quelque part, il a déjà un salaire, mais ça, c'est des revenus additionnels. Oh, Jésus de Nazareth, dis à quelqu'un, j'ai quelque chose. Maintenant, je vais vous dire pourquoi nous ne réussissons pas. Parce que pour la plupart d'entre nous, il faut comprendre qu'il y a quand même une différence entre un talent et puis une compétence. Le challenge, c'est que la plupart d'entre nous, le don ou le talent est resté talent, il n'est jamais devenu compétence. Le talent, c'est quoi? C'est le don à l'état brut, il n'a pas été exploité brut. C'est-à-dire, tu sais faire la cuisine, tu sais tout coudre, tu sais faire telle chose, c'est bien. Les gens te disent, ah merci, c'est bien ce que tu m'as fait. Tu fais ça pour dépanner quelqu'un à côté de chez toi, c'est bien, mais tu ne te rends pas compte. C'est une aptitude sur laquelle tu es assis, tu dors. Or, il y a un fleuve qui devrait arroser ta vie derrière. Oh. Seigneur, délivre ton peuple ici. Il y a quelque chose sur lequel tu es assis, tu ne te rends pas compte. Ah, je vais vous montrer la semaine dernière comment on peut multiplier son salaire par 3. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment on peut multiplier son salaire par 3 en l'espace de 6 mois. Mais c'est simple. Et je vais enseigner par l'expérience. Qu'est-ce qu'il a dit? Non mais je vous assure, c'est simple. C'est pas de la théorie, je l'ai mis en pratique. Mon frère l'a mis en pratique, donc je sais de quoi je parle. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Dis, j'ai au moins un don. Dis à ton voisin, un seul don suffit.
Un seul don suffit.
Mais regardez de haut, il y en a, ils ont juste utilisé un. Ils en ont plusieurs. Il y a plusieurs aptitudes, il y en a plusieurs. Mais il y a ce qu'on appelle des dons dominants. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui est récurrent, qui est très marqué, très prononcé chez moi. Il y en a un suffit. Regardez, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Parce que les dons spirituels, c'est pour les chrétiens. Mais les talents, c'est pour tout le monde. Quand tu vois Michael Jackson, quand tu vois qu'il monte là, il a dû utiliser une voix. Et puis un mouvement. Et puis c'est ça. Et puis les gars, ils vont décéder. Mais non! Tu vois Johnny là, c'est rien ça. Normalement, toi et moi, si on comprend, mais je vous dis la différence. C'est que au début, c'était un talent. À un moment donné, c'est devenu une expertise. Et le problème des chrétiens, on a des talents, on n'a pas d'expertise, on n'a pas de compétences. La compétence est différente du talent. Le talent, c'est brut. La compétence, c'est le talent qui a été travaillé. C'est-à-dire qu'on a augmenté sa valeur. Au lieu d'être, si vous déchirez de 0 à 10, au lieu d'être à 2 ou 3, comme tu es là. Tu as un talent pour la chanson, mais tu restes. Et quand tu chantes, les gens ne sont pas convaincus. Si tu montes, tu travailles, et tu montes ça jusqu'à 8, 9, les gens vont te solliciter. C'est pour ça que David était le meilleur. Et tu dois être le meilleur, la meilleure. Maintenant, quand tu rentres, en plus avec le Saint-Esprit, non, tu fais des dégâts.
Amen.
Quelqu'un dit amen. Jésus, voilà. Je finis avec un passage. Regardez. Regardez. Exode 31. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Je vais vous montrer comment on peut multiplier son salaire par 3, voire par 4. Juste avec la sagesse. Dis à ton voisin, j'ai au moins un talent. J'ai dit, un talent, c'est une aptitude, c'est une capacité. Tu es allongé même sur la capacité. Tu ne te rends pas compte que tu sous-estimes ce que tu as. Et tu es impressionné lorsque tu vois quelqu'un qui réussit. Non, j'ai compris que quelqu'un qui réussit, quand tu vois quelqu'un devenir grand, c'est au départ, il y avait un talent, un don, une aptitude qui lui a ouvert le chemin. C'est l'aptitude qui t'ouvre le chemin et qui te fait asseoir parmi les grands. Et c'est le caractère de Dieu qui te permet de rester parmi les grands. Si tu as l'aptitude, mais tu n'as pas le caractère, tu vas arriver parmi les grands, tu vas vite dégringoler. Chou! Parce que tu n'as pas le caractère, tu n'as pas le cœur qu'il faut. Alléluia. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. La semaine prochaine, on va continuer et on va développer ça et rentrer dans le point suivant qui revient sur tes expériences passées et peut-être une partie de mesure les battements de ton cœur. J'incite mon frère, ma soeur, pour dire que Dieu te donne des talents, il a enfoui en toi des choses qui ont du poids. Et ce poids n'est pas... En réalité, c'est lorsque le talent est transformé qu'il produit de l'argent. Dieu ne te donne pas de l'argent cash. Dieu te donne quelque chose de plus précieux que l'argent. Et lorsque tu réussis à le convertir, tu vois le résultat de la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, permets qu'à travers cette série, nous soyons vraiment changés. Permets que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Permets que ton peuple, Seigneur, puisse entrer dans le costume sur mesure que tu as préparé pour nous depuis la fondation du monde, Seigneur. Permets que le voile de nos cœurs soit déchiré. Permets que ton peuple devienne audacieux. Et que ce qui doit être ajusté soit ajusté. Ce qui doit être enlevé de nous soit enlevé de nous. Les complexes, les préjugés, les limitations, les peurs, la peur d'essayer, la peur d'oser. Permets que ces choses soient déracinées de nos vies, Seigneur. Nous voulons entrer dans notre destinée parce que nous avons compris que nous sommes des rois et sacrificateurs. Il y a un domaine dans lequel tu m'appelles à manifester le règne, l'influence de Christ, la prépondérance de Christ. Il y a un domaine dans lequel tu m'appelles à être une référence incontournable. Seigneur, accorde-moi la grâce de te célébrer pour les dons que tu m'as donnés. Tu me les as donnés pour servir ton corps, pour servir mon frère, pour servir ma sœur. Pas pour me regarder le nombril, mais pour te servir et pour honorer ton nom. Accorde-moi la grâce de ne jamais croire qu'avec le nom que j'ai, je suis supérieur aux autres. Mais accorde-moi la grâce de reconnaître et de célébrer la complémentarité des dons, Seigneur. Je te rends grâce pour ce qui est visible. Je te rends grâce pour ce qui est plus discret. Mais dans tous les cas, Seigneur, chacun de nous, chaque don produira à travers nos vies un son harmonieux à la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père. Je prie que tu graves cette parole, Seigneur, sur les tables de nos cœurs et que tu nous accordes la grâce dès aujourd'hui de commencer à méditer sur les aptitudes que nous avons, ces choses que nous avons négligées, nous avons laissé dormir en nous. Accorde-nous la grâce de les comprendre, de les découvrir, afin que lorsque, Seigneur, par ta grâce, la semaine prochaine, tu nous enseigneras ces choses, que nous ne soyons pas surpris, mais que nous disions simplement: je l'avais déjà entendu à l'intérieur de moi, et la voix de ton serviteur ne viendra que confirmer la voix qu'il y avait à l'intérieur de moi. Lorsque la conscience parlait, elle disait: tu n'es pas nul, tu n'es pas un échec, tu n'es pas destiné à échouer, tu n'es pas destiné à vivre dans la frustration, le monde, l'oppression, la compression, la dépression. Tu es appelé à être distingué. Mais regarde à l'intérieur de toi, cesse de regarder ton frère, ta soeur, cesse de regarder ton voisin, cesse de regarder la télévision et d'envier les gens, parce que Dieu a dit: tu n'envieras point, tu n'envieras point, tu ne convoiteras pas. Bénis Dieu pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce qu'il a enfoui en toi avant la fondation du monde. Ma forme est unique. Je suis ton chef-d'œuvre. Accorde-moi la grâce de ne plus regarder ni à gauche, ni devant, ni derrière, Seigneur. Mais de regarder en moi. Et lorsque je regarde en moi, pas, Seigneur, de devenir narcissique et de croire que je suis arrivé, mais de regarder en moi juste pour voir ce que tu as déposé, juste pour rentrer dans le moule, Seigneur, et découvrir et accomplir ma destinée. Pourquoi est-ce si important? Parce que tu nous as enseigné que la création attend avec un ardent désir, un profond soupir, la révélation, l'expression visible, la manifestation des fils de Dieu. Il y a un domaine dans lequel je dois influencer mon environnement. Pas pour moi, pas pour ma popularité, pas pour que je sois connu et acclamé, mais pour que Christ, en moi, l'espérance de la gloire, soit révélé, soit acclamé. À toi et à toi seul soit l'honneur, la gloire, pour ce que tu as fait et ce que tu as confirmé, manifesté. Le monde m'attend, la création m'attend. Je me lèverai, je saisirai ma destinée, je découvrirai ma destinée et je courrai vers le costume sur mesure que tu as préparé pour moi. Béni sois-tu, toi qui fais ces choses et qui me les révèle, Seigneur, par ta parole. Loué sois-tu, honneur à l'agneau, louange à l'agneau. Béni sois-tu, Éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. À toi la gloire, dans tous les siècles des siècles. Oui, il y a quelqu'un qui s'est levé ce matin, il ne pouvait pas rester assis. Il doit acclamer, il doit bénir l'agneau, il doit bénir celui qui a fait ces choses, celui qui m'a créé unique, un chef-d'œuvre. Béni sois-tu, ma vie, elle n'est un son pour lequel quelqu'un acclamera. Tout le monde n'acclamera pas, mais quelqu'un dira gloire, 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 gloire. Dans le nom de Jésus, alléluia. Béni sois-tu.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.